RFI. Grand reportage.
Assalam.
Bonjour.
Monsieur l'hôpital de Razi.
Je vais à l'hôpital psychiatrique de Razi.
L'hôpital psychiatrique, j'y emmène des gens tous les jours. Tous les jours, des personnes demandent à ce que je les y emmène. Les gens deviennent fous. Et là, je te parle de gens respectables, des gens de bonne famille, bien habillés et qui gagnent bien leur vie. Mais ils ne vont pas bien psychologiquement. Ils sont mal. Je ne parle même pas des plus pauvres. Eux, la machine les a écrasés depuis la révolution. Allez, ça fera 15 dinars, mademoiselle. Et bon courage pour ton reportage.
Au malaise politique, économique, les Tunisiens semblent ajouter le mal-être tout court. 10 ans après l'euphorie qui a suivi la chute de Ben Ali, la Tunisie se cherche encore. Et les Tunisiens souffriraient de ce que certains psychanalystes appellent ici un traumatisme. Alors comment s'explique ce malaise? Comment les médecins font face à la situation? Tunisie, le mental à rude épreuve. C'est un grand reportage d'Amira Swilly.
Officiellement, c'est un cours de chant.
On bloque Choyam, t'as 1, 2, 3.
En réalité, c'est bien plus que cela.
Le plus important pour l'être humain et son organisme, c'est d'oxygéner le corps. Quand on a peur, quand on est stressé, quand on est angoissé, on a le souffle court. Alors, on va travailler sur le diaphragme.
Un atelier d'art thérapie en plein Tunis. Expulser le stress par la voix. C'est l'idée qu'a eue Dolsaf Hamdani, chanteuse et musicologue tunisienne. Elle, qui a longtemps vécu à l'étranger, trouve ses compatriotes particulièrement angoissés.
Charme un peu de vocalise ou B. Il faut que je choisisse la tonalité. Un Do, B. Mais c'est surtout un moment pour se retrouver, déjà se retrouver avec soi-même.
Se retrouver, rester avec soi-même, cela permet de s'éloigner un peu du mari, de la famille, les enfants, le patron, tous ces trucs stressants là.
Le patron, les hajettes stressantes, voilà, exactement.
Dans la salle ce jour-là, une quinzaine de femmes. Elles ont entre 25 et 60 ans. Parmi elles, une jeune femme prend l'exercice très au sérieux. Emeni, vétérinaire de 33 ans.
En Tunisie, du matin au soir, on n'entend que de mauvaises nouvelles. Tiens, ce matin, par exemple, je suis allée au travail et la première chose que l'on me dit, c'est qu'on ne sera pas payé ce mois-ci. J'ai répondu, vous plaisantez. Le mois dernier, déjà, on a été payé en retard. Ils me répondent, eh ben, ce mois, franchement, ce n'est pas sûr qu'ils nous payent. Alors aujourd'hui, je suis arrivée dans un sale état au cours de chant, désespérée. Donc ce cours me fait vraiment du bien. J'en ressors en étant euphorique. Mais vraiment euphorique, quoi.
Dolsaf, bravo, non? Elles sont toutes reparties avec un grand sourire aux lèvres.
T'as vu ça? c'est magique, en fait. C'est des gens qui sont prédisposés à venir se lâcher, en fait, à s'exprimer, à être elles-mêmes ou eux-mêmes, en fait.
Chanter, mais surtout parler. Depuis la Révolution, les Tunisiens ont un besoin viscéral de s'exprimer. C'est le cas, notamment, des personnes ayant subi des actes de violence extrêmes. Pour accueillir leurs paroles, un institut pour la réhabilitation des survivants de la torture a été créé à Tunis en 2014.
Bonjour.
C'est la première fois que je vous vois.
Ce jour-là, j'ai rendez-vous avec le docteur Enis Abou Askar. Membre fondateur de ce centre, le docteur Boascal est psychiatre. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec une femme qui a été victime de violences sous le régime de Ben Ali.
Allez, suivez-moi, madame. On va parler là-haut.
Elle la suit depuis des années et m'a autorisée à assister à leur retrouvaille.
Alors, dites-moi, comment ça va? Est-ce que ça va bien?
Oh,
vous m'avez beaucoup manqué, docteur, beaucoup. Oui, ça va, je suis vos conseils. Les séances ont changé beaucoup de choses. Elles m'ont aidé à aller mieux, à penser mieux, vraiment.
Ah, mais la journaliste va croire que je vous ai demandé de dire ça.
Mais non, je ne savais même pas qu'elle serait là aujourd'hui.
Souriante, Loka Sebadine, cette patiente revient pourtant de loin. Considérée comme militante islamiste à cause de son voile, cette femme que l'on appellera Nour a été emprisonnée 2 ans sous Ben Ali. Elle a ensuite vécu 8 ans sous contrôle judiciaire. À chaque fois qu'elle pointe au commissariat, elle y subit les assauts sexuels d'un policier. À cela s'ajouteront les violences que lui fait endurer son propre mari.
J'ai tellement été torturée que je ne voyais plus d'issue. J'ai tenté de me suicider plusieurs fois, mais à chaque fois, quelqu'un m'a sauvée. J'ai sauté d'un barrage une fois, une autre, j'ai ouvert une bouteille de gaz et je me suis enfermée chez moi. J'ai aussi bu de l'eau de Javel, des médicaments aussi. Je voulais vraiment en finir.
Après la révolution, un processus de réparation a été mis en place à destination des personnes comme Nour qui ont subi les affres de la dictature. Un dispositif très incomplet, selon le docteur Anissa Bouraskar.
On a pensé donner de l'argent, donner un travail, mais on n'a pas pensé réhabilitation, mais du coup psychologique. Mais il y a des milliers de cas, des dizaines de milliers qui ont eu un travail alors qu'ils ne sont pas réhabilités psychologiquement. Il y a même ceux qui ont eu des postes d'instituteurs, d'enseignants. Imaginez des gens qui sortent de prison où ils étaient un peu torturés, etc. Et on leur donne des postes, eux-mêmes ils sont en souffrance, on les met face à un échec directement, ça c'est pas bon.
À 50 ans, Nour dit que le docteur Bouaskar l'a ressuscitée. Elle qui a refusé de voir un psychiatre pendant des années est devenue la meilleure ambassadrice de la santé mentale désormais.
J'ai perdu des années de ma vie juste parce que je refusais de voir un psy. Je le regrette maintenant. Pour moi, les psys, c'était pour les fous. Quelque chose de honteux. Notre société pense encore comme ça. Or, avoir des problèmes d'ordre psychologique, ça peut arriver à n'importe qui.
C'est bien. Au-delà des cas extrêmes de torture, une grande partie de la population tunisienne serait aussi en souffrance. En 10 ans, la consommation d'antidépresseurs a d'ailleurs explosé.
Merci.
Le docteur Anissa Bouaskar consulte aussi en ville, dans son cabinet. Je l'y retrouve un matin.
Aslama, Zbakhir, bonjour docteur Bouaskar. Ça va bien?
Elle est un peu désœuvrée paradoxalement. Une patiente a fait faux bond.
Elle va être obligée à affronter des événements un peu douloureux et c'est beaucoup plus confortable de ne pas venir. Voilà, on a un peu cette ambivalence des patients.
Alors là,
le docteur Bouaskar a donc tout le loisir de faire visiter son cabinet.
Ça, c'est un truc d'impatient, une médaille d'impatient. C'est lui qui a fait la médaille. Oui, la fille l'a ramenée ici, dans mon cabinet.
Vous avez été décorée par un patient.
Oui.
C'est la classe, ça. Donc, c'est à vous de passer sur le divan. Je vais vous faire parler. Vous allez me raconter votre quotidien de psy à Tunis.
Ouais.
Et alors, comment le politique influe sur la santé mentale?
Ouh là là. C'est... Il suffit d'aller regarder, parce que tout se passe dans les réseaux sociaux chez nous. Allez-y, regardez les commentaires. Après le dernier discours de notre président, les gens... alors, vous voyez, j'ai vraiment pensé à vous, il faut que je retrouve ça. Alors, vous avez des posts du genre l'exomile pour tout le monde, des choses comme ça.
Alors, est-ce qu'on peut dire que les Tunisiens sont en dépression de groupe?
Dépression de groupe. Oui, oui, c'est une société qui est malade. Oui, c'est toute une société qui est en souffrance. Il y a des structures de personnalité qui ne supportent pas l'instabilité. Donc ces personnes, elles peuvent être normales, équilibrées, mais à tout moment, elles peuvent basculer à l'occasion de grandes crises. Et on est dans un état de crise permanent. Permanent.
Alors que le pays traverse une crise économique sans précédent, aller chez le psy est pourtant un luxe que bien peu de personnes peuvent se permettre. Face à cette situation, des associations prennent le relais. C'est le cas de l'antenne tunisienne de Médecins du Monde. Dans plusieurs villes du pays, des permanences d'écoute ont été ouvertes. Parmi les publics reçus ici, il y a ce qu'on appelle les migrants de retour. Des clandestins expulsés ou rentrés d'Europe de leur propre initiative. Cet après-midi-là, Selim El Mahjoub, psychologue, reçoit un jeune homme dans cette situation. Avant de le faire entrer, elle tient à préciser la spécificité de ces patients-là.
Les personnes qui reviennent avec un retour volontaire, il y en a souvent qui reviennent sans affaires, sans rien du tout. Et ça, c'est traumatique. Donc, ils n'ont rien. Ils n'ont que leur passeport et les vêtements qu'ils portent. Vous voyez ? Alors que cette personne-là, elle a peut-être pris du temps pour se construire un chez-soi, pour avoir des souvenirs et rentre sans rien.
Son patient arrive enfin. On l'appellera Mehdi. Il a 24 ans. Je suis journaliste. Est-ce que je peux assister au tout début de la consultation pour voir comment ça se passe ? Mehdi, qui a besoin de parler et d'être écouté, me laissera assister à l'intégralité de son entretien avec sa psy. Turquie, Libye, Maroc, Espagne, France, Hollande, puis Allemagne, lui qui a erré de pays en pays, a fini par être renvoyé à la case départ. Ce retour, il le vit comme une humiliation.
Même les personnes les plus proches de toi ne te laissent pas en paix. On me demande sans cesse si j'ai régularisé ma situation, si je m'en sors. Il y a trop de pression en Tunisie. En Europe, je vivais seul. Même quand je n'avais pas d'argent, personne ne le savait. Ici, tu te retrouves dans ta famille, dans ton quartier, sous les projecteurs. C'est un retour en arrière. Tu étais parti et tu te retrouves à la case départ sans rien.
Et si tu devais évaluer ta santé mentale, qu'est-ce que tu dirais ?
Ma santé mentale, elle est tellement dans un gouffre qu'on ne peut même plus l'évaluer, vraiment.
Ok, on se revoit le 3 novembre.
Dans un mois ? Oui, d'accord, si je suis encore en Tunisie.
Pour éviter de devenir fou en Tunisie, comme il dit, Mehdi a prévu de retenter prochainement une nouvelle traversée clandestine vers l'Europe. Mehdi a conscience d'être sur une ligne de crête, de pouvoir sombrer à n'importe quel moment. C'est ce qui arrive à de plus en plus de Tunisiens.
Taxi ?
Aslama. Bonjour. Je vais à l'hôpital psychiatrique de Razi. Voilà, c'est bon, vous pouvez vous arrêter juste ici devant l'entrée. Je descends ici. Alors, il est 7h du matin, je viens d'arriver devant l'hôpital psychiatrique de Razi. On y entre par une grande porte, les grilles sont ouvertes. Une fois à l'intérieur, on est tout de suite dans de grands jardins. Alors on y entre, on s'y promène, on déambule sans problème ici, hein, personne ne vous demande ce que vous faites là. Alors là, je me suis posée devant le service des urgences. Il y a un jeune homme venu avec sa maman. Il confie au médecin entendre des voix et se sentir mal. En 10 ans, Le nombre de troubles psychotiques a été multiplié par 3 en Tunisie. L'hôpital de Razi est le seul établissement du pays à être intégralement dédié aux maladies mentales. Le docteur Hachem, chef de service, est aux premières loges pour observer ces mutations.
Bonjour,
ça va bien?
Ah, c'est le docteur Hachem.
Ça va?
En fait, les familles n'hospitalisent leurs patients que s'il y a agressivité, dissociation, risque suicidaire et un risque de passage à l'acte. Ils n'hospitalisent pas le patient quand il est calme, même s'il est délirant et qu'il ne gêne pas, il ne sera pas hospitalisé.
Plus de patients qui arrivent dans un état grave, mais pas plus de moyens. Tous les matins, avec ses équipes, le docteur Hachem passe en revue la situation du service.
Dans la nuit d'hier, on a un patient chronique qui est instable sur le plan moteur, qui dérange toujours les malades.
Les services du docteur Hachem sont engorgés de patients souvent en grande souffrance psychique.
Donc, faudra le voir.
Agitation, délire, angoisse, les médicaments permettant de calmer les malades viennent souvent à manquer, aggravant encore plus leur situation.
Donc vous avez 2 patients à voir, on va vous communiquer les noms tout de suite après.
C'est le cas d'une patiente hospitalisée pour schizophrénie et qui était à court de traitement justement.
Il faut voir à la pharmacie externe est-ce qu'il y a de l'accident ou non. S'il n'y a pas de l'accident, donc il faut... La faire sortir sous Aldol, donc
Il y a aussi un patient qui est plus ou moins instable sur le plan moteur.
Comment soigner quand les médicaments et lits viennent à manquer? Comment supporter le spectacle de ces patients en détresse? Face au manque de moyens, certains psychiatres tunisiens finissent par se sentir impuissants, au point de craquer eux-mêmes.
L'injectable est revenu.
Aux côtés du docteur Hachem ce matin-là, un de ses confrères, le docteur Mondor Ben Khedr, en tant que psychiatre, il a l'impression d'être le réceptacle du mal-être de toute une société.
Quand même, c'est une spécialité qui fait épuiser les médecins parce qu'on ne reçoit que du négatif, donc tout le temps, donc tous les jours. C'est un sujet qui est entre guillemets tabou pour les psychiatres. C'est très difficile qu'un psychiatre avoue qu'il va mal. Donc, c'est pas quelque chose.
Et vous l'avouez?
Oui, ça m'arrive, il m'est arrivé, donc c'est assez humain, c'est quelque chose...
Est-ce que vous voulez dire que vous ne pouvez pas soigner correctement les Tunisiens si vous-même vous allez mal, en fait, c'est ça?
Oui.
Face à cette situation, de nombreux psychiatres tunisiens fuient le pays vers d'autres cieux. Et la France, notamment, en manque de spécialistes, les accueille, les bras ouverts. Face au docteur Hachem, ce matin-là, une petite poignée d'externes.
Alors, les externes. Est-ce que vous avez vu la symptomatologie dépressive?
Elle qui les forme avec passion ose espérer que certains feront le choix de rester au pays.
Face à vous de futurs psychiatres, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Bon courage?
Battez-vous. Battez-vous, on n'a pas le choix. On est tunisien, on est né tunisien. On doit se battre pour ce pays et on y arrivera parce que, en définitive, le peuple, il a envie de s'en sortir. Et on s'en sortira certainement.
Tunisie, le mental à rude épreuve, un grand reportage d'Amira Swilem, réalisation Pauline Leduc.